Nous, on est allé là-dedans, je dirais, avec un peu de naïveté, de dire, bon, on va se lancer une entreprise. Puis là, tu te réveilles quelques années plus tard, tu as une certaine masse critique, tu as des employés, tu as un chiffre d'affaires, tu veux aller plus vite, tu veux peser sur le gaz. Puis tu te rends compte que l'actionnariat, c'est la chose la plus importante que tu as en tant qu'entrepreneur.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 136e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 10 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Commercialiser son entreprise technologique via des bonnes vieilles techniques d'appel à froid, c'est possible en 2022? En plus d'être possible, est-ce fonctionnel? Et je pousse la réflexion encore plus loin en posant la question, est-ce possible en 2022 de développer un SaaS sans lever de fonds et en se commercialisant uniquement via de la sollicitation téléphonique? À ma grande surprise, ces différentes affirmations sont totalement possibles et sont également excessivement profitables. Mon invité du jour, Alex Wojcik, cofondateur de l'entreprise Kimobi, une organisation se spécialisant dans la messagerie instantanée, va discuter avec nous des techniques totalement différentes qui l'ont aidé lui et son partenaire d'affaires Ismaël Mesquin à bâtir une société générant plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année. Et en plus de leur croissance, l'équipe de Kimobi a également décidé de grandir par acquisition. Ils ont fait récemment l'achat de ACE Marketplace et Alex va nous expliquer les coulisses fascinantes de cette transaction. Sans plus attendre, ma discussion avec Alex Wojcik. Alex Wojcik, tu es le cofondateur de l'entreprise Kimobi, une organisation technologique située dans la ville de Québec, se spécialisant dans la messagerie instantanée. Fondée en 2013, l'entreprise a grossi de manière constante à chaque année, au point d'atteindre la 51e classe des entreprises en plus forte accélération au Canada, en obtenant 1759% de croissance lors des 5 dernières années. Alex Wojcik, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, merci pour la belle introduction. C'est un plaisir.
Ouais, puis on va avoir un bel agenda aujourd'hui pour la discussion. Je pense que ça va être assez plaisant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre là, spécifiquement toute l'histoire de croissance derrière Kimobi, peux-tu nous expliquer un petit peu plus spécifiquement quelle est votre solution et qu'est-ce qui vous distingue dans le marché chez Kimobi?
Oui, exact. Ben écoute, rapidement, Kimobi, nous, on est un leader dans le domaine des communications pour les entreprises de services. Fait que si on regarde là, vraiment une entreprise de service comme un concessionnaire auto qui a besoin de communiquer avec leurs clients par messagerie texte ou de simplement faciliter les interactions avec les clients. Donc, c'est ce que Kimobi vient faire. On vient les supporter avec une technologie pour réduire le nombre d'appels, réduire le nombre de courriels puis faciliter les communications.
Puis, vous avez lancé ça en 2013. Puis, donne-nous juste peut-être un petit peu une vision là, de l'entreprise au moment où on se parle, nombre d'employés, combien que vous êtes présentement dans l'organisation?
Oui, on est une quarantaine d'employés présentement. On travaille avec plusieurs milliers de clients. Là, puis, juste pour en nommer quelques-uns, là, des concessionnaires Ferrari, McLaren, Porsche, pour faire rêver. C'est quelque chose qu'on est très fiers chez Kimobi. On est très méconnu là dans la ville de Québec, mais nous on a toujours énormément exporté notre solution là, fait que j'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler davantage plus tard.
Ouais, effectivement, je pense que vous êtes excessivement présent aux États-Unis, comme tu l'as mentionné. On va parler de croissance, on va parler d'expansion tout à l'heure, mais revenons un petit peu à la genèse. Donc 2013, je pense que toi et ton partenaire de toujours, Ismaël Mesquin, vous êtes au cégep à ce moment-là, vous dites que vous voulez vous lancer en affaires, vous pensez à une solution de messagerie instantanée. Comment tout ça s'est lancé? Parce que j'ai eu la chance, moi, de recevoir chez moi un beau livre qui explique un petit peu votre culture d'entreprise et j'ai l'impression, dans ce livre-là, qu'on peut voir que l'entreprise s'est créée après une visite chez le dentiste.
Ouais, exactement. Ben, écoute, je pense que dans chaque entreprise qui est fondée, on a le genre de aha moment là, quand on veut, on veut se lancer en affaires. Nous, à l'époque, on était au cégep. Puis écoute, t'as vu juste là, donc c'est ce fameux moment-là. C'était un dentiste qui avait laissé un message vocal chez les parents Ismaël pour une confirmation de rendez-vous. Puis ça nous avait fait penser. C'est là qu'on a commencé à réfléchir comment que les entreprises pourraient mieux interagir avec leurs clients de façon plus efficace, parce que ben naturellement le rendez-vous il était le lendemain, puis il était rendu 5h30, fait que c'était fermé, fait qu'on pouvait plus annuler. Fait que c'est parti un peu de là, puis là on remonte à il y a 8 ans là, ouais.
Puis avant ça, toi puis Ismaël, je pense que vous avez toujours été du monde en affaires. Je pense que même plus jeune, vous aviez eu certains projets. C'était pas votre premier projet là, lui de Kimobi.
Non, ben on a tout le temps baigné un peu dans le web. On faisait des sites web au début. Par contre, on s'est rapidement rendu compte qu'à chaque mois, faut recommencer. Fait que c'est difficile de grossir une entreprise puis grossir une équipe si à chaque mois, faut recommencer. Donc, d'où l'idée d'avoir vraiment un produit puis développer notre propre produit. Puis on s'intéressait énormément au modèle d'affaires. Puis là, on recule de 8 ans, là, mais le modèle d'affaires de revenus récurrents qui a gagné là en popularité. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est un modèle qui nous plaisait énormément. Puis puis on s'est comme lancé là-dedans avec quelques ressources, mais très limitées. Là. Je me rappelle quand on a enregistré le nom de l'entreprise dans le sous-sol chez ses parents là, pour se lancer en affaires. Là, ouais.
Bon, parfait. Ben, regarde, retournons maintenant à Kimobi. Donc, bon. Une expérience chez le dentiste pas tellement fructueuse dans la manière qu'ils ont confirmé leur rendez-vous. Une idée vous vient de peut-être améliorer ce type de situation-là. Et là, à partir de là, comment ça se déroule? Est-ce que c'est Ismaël qui code la solution? Est-ce que c'est toi qui s'en occupe? Est-ce que toi, d'un autre côté, tu cherches des clients? Comment ont été les premières années? Parce que c'est souvent là que c'est le plus compliqué qu'on veut se lancer. C'est de bâtir le produit tout en trouvant des clients, tout en essayant de trouver un product market fit. Ramenez-nous peut-être aux années 2013-2014 pour voir comment tout ça a commencé.
Ouais, exactement. Ben écoute, c'est une super bonne question, parce que à ce moment-là, on savait pas du tout dans quoi qu'on s'embarquait. On était juste deux. Ismaël programmait, donc lui essayait de bâtir un produit que moi après ça j'essayais d'aller vendre. Donc c'est un peu l'œuf ou la poule là qui est arrivé dans notre situation. C'est ça. Puis rapidement, on a vu qu'il y avait un besoin parce que on s'est rendu compte que bon, les entreprises n'avaient pas d'outils pour envoyer des messages à leurs clients autre que des courriels. Fait que nous, ça a vraiment été là l'élément déclencheur, c'est d'envoyer un message texte à partir d'un ordinateur. Là, c'était très très nouveau à ce moment-là. Fait que surtout pour les entreprises dans un cadre professionnel. Donc, Ismaël avait développé une version vraiment de base qui permettait d'envoyer des messages texte. Moi, j'allais vendre cette version-là. Ensuite, de ça, on a développé différentes fonctionnalités pour des conversations, de la collaboration, des automatisations. Puis maintenant, là, on est vraiment full-on une plateforme qui permet de générer et de gérer les communications pour une entreprise. Puis on va vraiment se rapprocher. On vient vraiment aider les entreprises à se coller au Now Economy. Fait que peut-être juste faire une parenthèse rapidement là-dessus. On est tellement maintenant habitué à tout ce qui est Amazon Prime, Uber pour commander un taxi en quelques clics. Ensuite de ça, Netflix pour écouter ce qu'on veut, quand on veut, où on est, peu importe. Là. Donc, c'est vraiment cette approche-là qu'on vient créer dans les entreprises. Donc, de savoir maintenant qu'est-ce qui se passe avec mon véhicule. Est-ce que je peux avoir des photos, des vidéos, des preuves à l'appui, puis offrir une certaine transparence là, parce que les gens veulent savoir maintenant qu'est-ce qui se passe. Ouais.
Parce qu'effectivement, ça doit être un changement colossal pour ces organisations-là d'être capable de dialoguer avec leurs clients directs pendant qu'il y a une peut-être installation spécifique avec leur véhicule, un changement d'huile ou quoi que ce soit. Les gens peuvent avoir des questions. Vous êtes capable, vous, de dialoguer ou plutôt d'aider ces entreprises à dialoguer en temps réel avec leur clientèle?
Oui, exactement. Fait que ça vient vraiment éliminer le besoin d'appeler, laisser des messages vocaux, envoyer des courriels. Surtout, c'est des communications qu'on appelle asynchrones. Donc, tu sais, je veux savoir que mon véhicule est prêt, mais j'ai pas besoin de répondre au téléphone nécessairement tout de suite. Je peux juste avoir un message texte puis passer le chercher après les heures d'ouverture. Puis à ça, on a aussi ajouté une fonctionnalité de paiement mobile qui permet de générer là, des factures. Ça a été extrêmement populaire là, durant le COVID aussi. Là.
Bon, donc on voit, vous bâtissez une plateforme assez complète pour ces différentes entreprises en prestation de services. Et je l'ai dit en introduction, 1559% lors des 5 dernières années en termes de croissance. Et là, on va le mentionner à l'audience aujourd'hui. Tout ça a été fait avec 0$ en financement externe. Donc, il n'y a pas d'ange investisseur, il n'y a pas de banque spécifique qui sont venues mettre des millions de dollars. Vous l'avez fait à la dure, vous l'avez fait avec votre argent. Pour quelle raison vous avez pris cette approche-là? Parce qu'on entend tellement d'histoires des entreprises technologiques et il y en a tellement sur hypercroissance. J'ai levé 10 millions, j'ai levé 15 millions, j'ai levé 100 millions et souvent on voit ça comme une histoire à succès qu'au final, le succès en entreprise, c'est de générer de l'argent, c'est pas nécessairement d'enlever. Quelle a été peut-être votre approche par rapport à ça? Pourquoi vous avez décidé de faire ça et de garder 100% de l'entité et de ne pas chercher d'ange investisseur?
Bon, OK, merci. Là, on ouvre une grande parenthèse. Là, c'est écoute, on pourra en parler pendant des heures. Nous, on a été, oui, effectivement, bootstrap. On est super fiers d'être arrivés où on est. Puis, je pense que c'est avec beaucoup d'acharnement qu'on est arrivé là, effectivement. Mais écoute, si on recule de 8 ans, le marché était pas ce que c'est actuellement. Là. Donc, nous, on est allé là-dedans, je dirais, avec un peu de naïveté. De dire, bon, on va se lancer une entreprise, puis là tu te réveilles quelques années plus tard, tu as une certaine masse critique, tu as des employés, tu as un chiffre d'affaires, tu veux aller plus vite, tu veux peser sur le gaz, puis tu te rends compte que l'actionnariat, c'est la chose la plus importante que tu as en tant qu'entrepreneur. fait que c'est là que ça devient extrêmement difficile, puis quand tu roules une entreprise, dans notre cas, qui était profitable, tu sais, tu as accès à différents leviers de financement, puis de la dette aussi, donc c'est par choix, je t'avouerais. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, de connaissances qui ont pris le chemin opposé, qui sont allés élever des rendes. Écoute, je les félicite. C'était tout simplement pas notre mood là. Tout simplement, c'est pas comme ça qu'on se voyait grossir l'entreprise. Puis souvent on appelle ça grossir à tout prix. Nous, c'était pas vraiment dans notre vision. On voulait vraiment une entreprise qui était plus du style sustainable growth. Tu sais, on est content avec une croissance de 30 à 50% par année constante, puis d'avoir une business là, qu'on a le contrôle aussi dessus.
Puis je pense que c'est ça. Au final, il y en a qui veulent grandir très rapidement et des fois ça peut être bon, mais il y en a d'autres qui veulent grandir sur une plus longue période de temps et je pense que c'est ce que vous avez fait. Et ce qui est intéressant également à mentionner, parce qu'on a eu des discussions, toi et moi, avant l'entretien, c'est que, comparativement, encore une fois, à beaucoup d'entreprises technologiques, vos leviers d'acquisition ne dépendent pas tellement de marketing agressif, ne dépendent pas tellement de publicité à haut volume. Vous prenez la bonne vieille école, vous prenez le téléphone et vous allez chercher de la clientèle. Et ça, c'est un autre sujet qui est fascinant. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur comment vous faites votre développement de clientèle chez Kimobi? Parce qu'encore une fois, c'est rare qu'on ait des gens sur le podcast qui ont des entreprises technologiques et qui vont utiliser ces outils de développement.
Ouais, écoute, c'est super fascinant. La façon qu'on a bâti l'entreprise, c'est tout simplement cold call après cold call. il y a pas de recette magique là. C'est comme ça qu'Ismaël et moi on a bâti l'entreprise. On voulait. Il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu là-dedans. Puis, tu sais, juste pour revenir sur ta question précédente, il y a pas de bonne ou mauvaise façon de bâtir une entreprise. Je veux être super clair là-dessus. Là, il y a pas. C'est pas une recette qui fonctionne à tout coup. Puis j'ai énormément de respect pour tous les entrepreneurs qui, peu importe la manière, qui s'y prennent avec ou sans financement. Nous, c'était un chemin qu'on a pris, puis on s'est rapidement rendu compte que on pouvait grossir la business en appelant directement chez des clients qu'on ciblait. Puis on avait 1 chance sur 10, 1 chance sur 8, 1 chance sur 5 de réussir à avoir une vente dans 30, 60, 90 jours. Donc, on était très confiants de ces chiffres-là. Puis ensuite de ça, c'est simple, on se mettait des objectifs, on faisait un reverse engineering de ça, puis on appelait. Fait que moi, je me rappelle là, quand on commence à nos tout débuts, Ismaël programmait, puis moi, j'appelais toutes les... Je me disais, bon, j'appelle tous les concessionnaires Honda au Canada, il y en a 325, aujourd'hui, je passe au travers de la liste. Puis le lendemain, ouais, j'avais pas fini, mais je la continuais, je me faisais dire non, on se faisait dire non, il nous manque telle puis telle fonctionnalité, fait que là, ça nous donnait des idées, on grossissait là-dessus. Fait que c'est un peu le modèle là, qu'on a pris. C'est ça, c'est, C'est différent. Écoute, moi, nous, ce qu'on aimait, c'est avoir le contrôle sur nos décisions. J'aimais pas rester là, mettre un 10-15 000 qui roule en pub sur des keywords puis attendre de peut-être voir un lead rentrer.
Ben ouais.
Non, on était impatients, on voulait prendre le téléphone, on croyait en notre solution, on croyait à la valeur ajoutée qu'on avait, fait qu'on appelait puis on essayait de vendre notre produit. Puis c'est dommage parce qu'on voit de moins en moins ça. Je sais pas, peut-être que quand on recule de quelques années, on l'a, comme je disais tantôt, on l'a fait par naïveté, mais il faut voir que ça a des bons côtés aussi.
Ben, c'est comme ça qu'on est capable de sortir un petit peu de la foule, hein, de cette manière-là. Tout le monde investit des sommes astronomiques en publicité sur Google ou en publicité sur les médias sociaux pour aller chercher des leads. Plus souvent qu'autrement, ça peut générer des bons résultats, mais faut pas oublier qu'il y a d'autres leviers d'acquisition qui, eux, la seule chose que ça coûte, c'est du temps, hein? C'est du temps, puis j'ai l'impression que toi, en tant que fondateur, ça n'a pas l'air de te déranger tellement de prendre le téléphone et d'appeler des prospects.
Ben, écoute, c'est ça. Faut se retrousser les manches. Ça nous prend des ventes pour continuer à développer un bon produit dans lequel on croit pour aider nos clients. Donc, écoute, il n'y a pas de solution magique. J'aimais avoir le contrôle là-dessus. Puis justement, là, comme je disais, on était assez impatients, là, donc... On voulait pousser, puis mettre le plus de chances de notre côté. En même temps, si on regarde ça, tu sais, fallait être créatif. Fallait se donner tous les moyens possibles pour avoir du succès. Tu sais, on n'avait pas le fallback de dire, bon, ben, on a 1 million dans le compte. S'il faut, on peut investir plus en peu, puis on verra ce qui arrivera. Tu sais, si on n'avait pas ce luxe-là, donc fallait se débrouiller autrement.
Puis c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus souvent qu'autrement, on va lever des sommes pour aller investir en marketing. Vous, de votre côté, vous investissez pas tellement en marketing, vous faites la bonne vieille école pour aller chercher vos clients. Donc, encore une fois, on revient quasiment à notre autre point qu'on parlait de financement. Quand tu fais cette approche-là au niveau de ton développement, t'as moins la nécessité d'aller chercher des fonds est moins présente aussi, là.
Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que en tant qu'entreprise, il faut continuer à innover, il faut continuer à investir dans la recherche et le développement pour améliorer notre produit, notre technologie. Mais écoute, la façon la plus simple, c'était de faire des ventes.
Puis j'aimerais parler un petit peu de ce volet-là, parce que clairement, ça a l'air là, d'être ta tasse de thé, le volet des ventes, et Ismaël, lui, c'est davantage au niveau du produit, si je comprends bien. Est-ce que c'est une histoire de famille? Est-ce que ta famille était en vente? Est-ce que dans des jobs dans le passé, tu travaillais également en vente? Est-ce que c'est inné chez toi? D'où est-ce que ce volet-là de chasse un peu provient chez Alex Wojcik?
Écoute, c'est une bonne question. Pas nécessairement. Mon père a travaillé en vente très fort toute sa vie. Ça a été un modèle. Donc, je pense que ça, c'était le fun de voir ça. Mais c'est juste, si on revient une seconde, c'est quand tu crois à ton produit. Tu vois qu'il y a un potentiel énorme. Puis nous, on s'est rapidement rendu compte que un client Honda à Québec, à Montréal, en Estrie, a les mêmes problèmes, les mêmes défis qu'un concessionnaire Honda ou Wisconsin, en Alberta ou BC. Donc, nous, quand on a vu ça, cette tendance-là, on s'est rapidement mis à essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour avoir du succès. Puis la seule façon qu'on pouvait, c'était d'appeler ces clients-là puis de leur proposer notre solution.
Et souvent, des entreprises technologiques, on va chercher des développeurs, on va chercher des développeurs front-end, des développeurs back-end, on va chercher des gens qui vont compléter notre équipe de produits. Et bien entendu, c'est une chose que vous faites chez Kimobi, mais je pense qu'en plus de ça, vous développez continuellement votre équipe de vente. À quoi ça représente là, votre équipe de vente présentement chez Kimobi au moment où on se parle?
Écoute, c'est une très bonne question. On est une petite équipe de vente actuellement. On est plus spécialisé. On a des recettes gagnantes parce qu'on a énormément de références. Donc, nous, on roule énormément sur un réseau de références. On est une petite équipe spécialisée. Puis, on a beaucoup d'investissements dans notre équipe de CSM. Donc, une fois que la vente est faite chez Kimobi, le vendeur ne reparle plus nécessairement au client. C'est vraiment notre équipe de Customer Success qui va prendre le relais puis s'assurer qu'on a une rétention. Parce que c'est facile. C'est une chose faire des ventes, mais si tu as un churn rate de 30-40%, tu ne seras pas en affaire longtemps. Là. Fait que le nerf de la guerre, c'est vraiment la rétention au client, puis d'avoir cet argent-là qui revient à chaque mois qu'on peut réinvestir dans notre équipe, leur offrir des ressources, des webinars, des best practices, puis d'avoir de rester vraiment un joueur qui est knowledgeable. Dans leur défi, nous, on baigne là-dedans, c'est notre produit. Mais quand on vient présenter notre technologie à quelqu'un qui a jamais vu ça ou qui a jamais utilisé une technologie similaire, écoute, il y a tellement d'idées, tellement de use case avec notre produit qu'on peut faire qui devient très intéressant pour eux.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissement publicitaire Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Puis, parlons un petit peu de votre équipe maintenant parce que tu as abordé le point. Donc, j'ai été capable de voir encore une fois dans votre livre portant sur votre culture que présentement, chez Kimobi, vous avez des gens qui travaillent de la ville de Québec, vous avez des gens qui travaillent d'ailleurs. Je pense que vous avez une ouverture sur des employés qui peuvent travailler de plusieurs pays. Je pense que vous avez cette politique-là d'entreprise maintenant. La question que je te poserais, est-ce que cette ouverture d'engager des gens de l'étranger était là avant la pandémie ou c'est arrivé avec la pandémie de se dire, tu sais quoi, on peut avoir des très bonnes ressources qui travaillent pour nous de Vancouver, de l'Europe, tant aussi longtemps qu'on est capable de bâtir cette infrastructure de travail à distance, on engage un peu partout.
C'est arrivé un peu avant le COVID, la pandémie. C'est sûr que on était ouvert à avoir des employés à l'extérieur parce que naturellement, ça nous prenait des talents. Puis sont un peu partout les talents. Donc on voulait tu sais maximiser nos chances de succès. C'est sûr qu'avec le COVID, on a eu énormément de tu sais, on a pris un virage de 100% numérique. Là, on a gardé notre place d'affaires à Québec. On veut garder notre siège social à Québec. Mais on a toujours été très ouvert à du télétravail. Tu sais, on a des employés qui sont à Calgary, à Montréal, au Mexique, à Toronto. C'est pas un frein pour nous. De toute façon, maintenant, avec les outils technologiques qu'on a à notre disposition, c'est super, super simple. Par contre, il n'y a rien qui va battre les présences de brainstorm, les présences d'interaction au bureau. Fait qu'on encourage les gens à revenir tranquillement. Mais c'est pas un frein nécessairement là, à notre croissance. Là.
Il faut donner la possibilité, je pense, aux gens de travailler au maximum d'endroits possibles. Ultimement, également, d'avoir des gens dans des réunions, ça peut aider. Mais on dirait que maintenant, on veut de la liberté. Hein? Les employés veulent de la liberté. Les fondateurs même veulent de la liberté. Donc, je pense que c'est bien d'avoir cette approche-là. Puis, on va continuer à parler un petit peu du volet de culture. Je l'ai mentionné quelques fois, vous avez bâti ce fameux booklet-là. Je pense que vous avez introduit en 2021, donc à peu près un an de ça maintenant, qui présente votre organisation, sa mission, sa culture, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas également, vos envies de croissance. C'est excessivement bien bâti. Je me mets à la place d'un employé qui reçoit ça quand je rentre chez Kimobi. Ça me met déjà dans le bain un petit peu de ce qui m'attend. Quelles ont été les raisons derrière la création de ce booklet-là?
OK, le fameux Culture Book Kimobi. Merci d'en parler, Antoine. C'est super intéressant. C'est un projet que les employés chez Kimobi ont fait. C'est vraiment un projet qui vient de notre équipe. On a des employés que ça fait plusieurs années qu'ils sont chez nous. Tu sais, notre premier employé est encore chez Kimobi. Donc, ça, c'est super fascinant. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que on a tous des traits qui nous rassemblent. Puis souvent, les nouveaux qui rentraient nous disaient, il y a quelque chose de spécial quand on rentre chez Kimobi. On dirait que c'est comme une grande famille, que ça fait longtemps qu'on travaille avec vous. Puis cette approche-là nous a fait réfléchir un peu. Puis on a dit, ben pourquoi qu'on n'essaie pas de faire un livre qui vient appuyer ça? On a fait l'exercice d'établir nos valeurs d'entreprise aussi, qui était super important pour nous. Mon associé Ismaël et moi, on avait fait un premier jet, on a proposé ça à l'équipe. Tout le monde nous a donné des feedbacks positifs, négatifs, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. On est retourné sur la planche à dessin, on a établi les valeurs de la business. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. On croit pas vraiment à leur imposer quelque chose. Fait que c'est un travail d'équipe qu'on a fait ensemble. Puis ce culture book là est disponible sur notre site dans la section carrière là au bas de notre site. Puis écoute, on est super fiers de ça parce que c'est quelque chose qui vient prouver que travailler chez Kimobi, c'est quelque chose d'unique, de différent. Puis c'est des gens qui sont passionnés qui travaillent chez nous.
Intéressant. Ben je pense que c'est important, surtout quand les gens sont à distance maintenant et qu'ils peuvent pas nécessairement sentir aussi facilement qu'avant l'ambiance de travail, d'avoir un livre, d'avoir une fondation qui leur permet de bien comprendre l'organisation. Ça fait tout son sens. J'aimerais parler avec toi, Alex, maintenant de la dynamique avec ton partenaire Ismaël. Donc, on l'a dit un petit peu plus tôt, Ismaël, c'est lui qui s'occupe du volet produit. Toi, tu t'occupes du volet développement d'affaires. Première question que je te poserai ici, comment vous êtes connus les deux?
On est des amis d'enfance. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On allait à l'école ensemble. On est des amis d'enfance. Fait que c'est vraiment plus facile d'être en business quand ton partner, c'est ton meilleur ami aussi.
Puis la connexion entre vous s'est faite rapidement de se dire, hey, tu sais quoi, on pourrait faire des affaires ensemble. Moi, j'ai peut-être davantage un côté produit. Moi, j'ai davantage un côté développement. Comment, à un certain point, vous êtes dit, hey, nous, on pourrait être des bons partners?
J'ai pas de réponse pour toi. C'est venu naturellement. C'était juste le désir de bâtir quelque chose ensemble, d'avoir notre entreprise. C'est tout simplement ça. On avait des passions communes. On aimait l'automobile. On s'est dit, on aimait la technologie. On s'est dit, on pourrait peut-être essayer de construire une business dans ce domaine-là. Donc, c'est venu de fil en aiguille vraiment se concrétiser avec Kimobi. Mais écoute, c'est ça, c'est, on est des amis d'enfance, c'est une confiance totale qu'on a l'un envers l'autre. Lui, il regarde son département, il est passionné par le développement de produits, la technologie, d'avoir le moins possible de dettes techniques dans notre produit. Ça, c'est aussi quelque chose que les entreprises qui avancent à tout prix, là, des fois négligent. Nous, c'est super important pour ça d'utiliser la meilleure technologie possible. Puis moi, ben c'était le développement de marché, la vente. Donc on se pile pas ses pieds, puis on se fait confiance à 100%. Puis écoute, tu sais, avec les années, quand on grossit l'entreprise, quand on atteint une certaine taille, là, puis c'est vraiment au stade là, de 30 personnes, si je peux faire un peu du pouce là-dessus, là, tu te rends compte que en tant qu'entrepreneur, t'excelles pas dans tout, puis t'es pas passionné de tout. Puis c'est bien correct comme ça, c'est comme ça que faut pas se rendre malade. Puis tu sais, après ça, faut avoir quelqu'un qui nous aide à opérer l'entreprise. Puis depuis presque un an là, on a ajouté un CEO à notre équipe là, Martin, oh, qui fait un travail fantastique là. J'aimerais ça pouvoir remercier tout le monde dans l'entreprise qui travaille là, d'arrache-pied pour notre succès, mais c'est sûr que c'est venu nous stabiliser, nous aider à s'organiser, d'avoir vraiment des meilleures pratiques internes là, de collaboration, de travail. Puis c'est ça, donc.
Ben, c'est intéressant. Puis c'est où vos chemins s'entrecroisent dans ce cas-là? Parce que toi, Ismaël, vous avez clairement vos carrés de sable. C'est assez clair là, dans la manière que tu l'expliques. Où vos chemins s'entrecroisent? Est-ce que c'est sur peut-être une fréquence de rencontre hebdomadaire sous forme d'un conseil d'administration? Est-ce que vous travaillez ensemble tous les jours? Comment vous collaborez ensemble pour faire avancer l'entreprise, sachant que, bien entendu, au jour le jour, vous opérez dans des départements totalement différents?
Ben, la réponse va peut-être te surprendre. C'est pas compliqué. On est assis un en face de l'autre dans le même bureau à chaque jour depuis 8 ans. Fait que c'est super simple dans ce temps-là. On collabore, on est au courant un peu des défis de chacun en temps réel parce qu'on est en face de l'autre à longueur de journée. Puis les gens chez Kimobi le sachent. Puis c'est quelque chose qu'ils apprécient parce qu'ils peuvent avoir un feedback direct puis une réponse assez rapidement. Fait que c'est le fun ça d'avoir cette proximité-là. Puis de pas avoir trop de red tape non plus, là, ça nous permet de rester assez agile. Ouais.
Intéressant. Puis tu m'as ouvert une porte, tu dis que vous avez engagé un responsable des opérations, un chef des opérations internes. Ouais. Quelle a été la réflexion derrière ça? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, tu sais quoi, finalement, il y a des choses qu'on aime un peu moins, puis il nous faut quelqu'un qui gère ça? Ou est-ce que vous êtes juste rendu, peut-être, vous êtes rendu compte peut-être que ça vous freinait un peu dans votre croissance? Vous arriviez à un certain endroit que vous aviez atteint le maximum de vos compétences dans un département spécifique?
Oui, ben c'est un point excellent. C'est Je veux dire, à un certain stade, on a des gens qui ont des départements qui sont très compétents, mais nous, on peut pas nécessairement les challenger non plus, ou on n'a pas le bandwidth parce qu'on est tiré à gauche, à droite au quotidien.
Bien sûr.
Puis d'avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à ça, puis qui a vu une business opérer à un autre niveau, c'est super important. Puis ça, je pense qu'il faut pas avoir peur de déléguer, puis de savoir s'entourer quand t'es en affaires, parce que sinon, ça va te rendre malade, là, carrément. Là. Moi, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, la preuve est là. On a continué notre croissance, on s'est amélioré, on a mis des excellents processus en place. Puis, ça nous permet de se détacher de certaines choses, puis de garder ce qu'on aime, puis ce qui nous passionne là, comme tâche. Là.
Intéressant tout ça. Puis, là, on a parlé un petit peu de comment vous êtes arrivé avec cette croissance-là, les gens que vous avez engagés, la culture que vous avez mis en place. Les stratégies de commercialisation, maintenant, ça ressemble à quoi le futur pour Kimobi? Est-ce que vous avez un plan de croissance, des objectifs excessivement clairs pour 2022, pour 2023? Parle-nous un petit peu de ce futur.
Oui, ben écoute, c'est clair nos objectifs, croissance de 30 à 50 par année. On est très ambitieux, mais notre market fit est là, puis on est prêt à peser sur le gaz. On veut que notre produit soit adopté par notre marché. Ça, c'est sûr. En plus, avec l'acquisition du produit qu'on a fait, là, qui a été annoncé il y a quelques semaines, qui va nous permettre là, d'avoir, je dirais, un meilleur éventail de produits là, dans les concessionnaires aussi, plus spécialisés. Donc, continuer à développer ça, continuer à créer des emplois de qualité à Québec, bâtir une équipe gagnante, je pense que c'est important. Là, je l'ai mentionné tantôt, on souhaite que notre siège social reste ici, développer de la richesse ici, continuer à exporter notre produit. Et c'est quelque chose qu'on veut continuer, puis on a tellement des parts de marché minimes quand on commence à sortir du Québec, c'est fou. Puis j'encourage tous les entrepreneurs à essayer de faire le calcul de ça, de voir bon ben mes parts de marché en Amérique du Nord ressemblent à quoi comparé à ma ville ou ma province là. Puis vous allez tomber en bas de votre chaise d'après moi. Fait que c'est de continuer à exporter notre produit au sud de la frontière. D'innover, d'amener une solution technologique qui est pertinente pour le marché là, ouais.
Puis là, tu le dis d'une manière beaucoup trop humble là, parce que là c'était le prochain point que je voulais aborder avec toi, l'acquisition que vous avez faite de ACE Marketplace, si je me trompe pas, qui a été officialisée il y a quelques semaines de cela seulement. Bon, les chiffres n'ont pas été rendus publics, donc ça, j'imagine qu'on pourra pas en parler aujourd'hui, mais tout de même, parle-nous de cette acquisition là, parce que c'est un gros, pardonnez-moi l'anglicisme, milestone dans l'histoire d'une entreprise, de faire l'acquisition d'une autre organisation. Quelles ont été les réflexions derrière cet achat d'entreprise-là et quels étaient également les objectifs derrière l'acquisition?
Ouais, ben écoute, merci pour l'opportunité. C'est un produit qui est complémentaire à notre solution. Puis on s'est dit, bon, ben combien de temps ça va nous prendre de développer ça? Combien ça va nous coûter versus essayer d'acheter une technologie qui est déjà créée? C'est un cas particulier parce que c'est juste avant leur go-to-market. Donc, nous, on est arrivé au bon moment. On a fait l'acquisition du produit juste avant qu'il soit lancé. Donc, on est dans le processus de rebrand la plateforme, de venir la rimer avec notre stack technologique. Ça va être lancé là, plus tard en juin, juillet. Mais c'est ça, c'est un produit qui permet là, de gérer toutes les flottes de véhicules de courtoisie, de navettes dans les concessionnaires. Donc, c'est quelque chose qu'on est super content d'avoir fait l'acquisition puis qui va être un produit là, complémentaire à notre offre.
Donc, bon, de ce que je comprends, vous allez faire l'acquisition ici, c'est un besoin qu'une de vos verticales principales, les concessionnaires automobiles, avaient besoin. Mais au-delà de ça, est-ce que l'équipe de l'entreprise que vous avez fait l'acquisition, ACE Marketplace, va s'intégrer à Kimobi aussi ou vous êtes seulement allé chercher la technologie?
Principalement la propriété intellectuelle. Donc, pas vraiment de l'équipe là, qui se joint à nous. C'est vraiment là une acquisition là, pour la technologie qu'on a fait. Ouais.
Donc, c'est quasiment un achat d'actifs ici, plus que l'achat de l'entreprise au complet.
Oui, exactement. Puis, écoute, c'est quelque chose qu'on s'était pas vu faire. Là. On recule de peut-être 3-4 ans, on n'avait jamais vraiment considéré faire ça ou avoir mis ça sur la planche à dessin, peu importe. C'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à nous, une business qui voulait pas nécessairement amener le produit en marché. Donc, des fois, à bonne place, au bon moment, là, c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là.
Puis vous savez comment aller chercher le marché. Donc, et vous avez déjà les clients, hein, si eux s'adressent à une verticale automobile et que vous possédez... redis-moi les chiffres un peu. Vous avez un taux de pénétration assez exceptionnel au Canada au niveau des concessionnaires automobiles ou même en Amérique du Nord. Peux-tu redire les chiffres un petit peu à l'audience aujourd'hui? Parce que je pense que vous possédez là, des parts de marché assez exceptionnelles.
Ouais, exactement. Ben, au Canada, on possède près de 25 % des parts de marché. Puis quand tantôt, je parlais de faire les calculs à l'extérieur, aux États-Unis, on parle de peut-être 1 % Fait que c'est ça qui est, moi, c'est ça qui me drive. Puis, tu sais, quand on a parti Kimobi il y a 8 ans, on avait 0 % de part de marché au Canada. On savait pas vraiment c'est quoi que ça allait faire. Puis, c'est un peu se lancer dans le vide encore, là, puis de dire, bon, ben on continue, on va exporter notre produit, on fonce, on n'a pas le choix. C'est le fun parce que là on parle de part de marché dans les concessionnaires auto, mais peut-être en introduction, je l'ai pas mentionné, mais on travaille aussi avec d'autres verticaux. Puis je pense que c'est quelque chose qui est méconnu un peu de notre plateforme. Mais on a énormément de clients là, comme des Garda World, des Solio Agriculture, Saputo, Golf Town, des magasins Samsung. Donc tous les magasins Samsung utilisent notre produit pour faire des paiements de commandes de ramassage en magasin. Donc c'est quelque chose que, tu sais, on met pas de l'avant sur notre site web, c'est pas quelque chose qui est présent là dans notre marketing, mais tu sais, nous on est allé vendre notre produit à ces entreprises là aussi. Donc on est assez diversifié aussi là, c'est bien pas sûr. Juste les concessionnaires auto. Quand je disais tantôt qu'il y a beaucoup de use case à notre produit, c'est à ça que je voulais faire un parallèle. Ouais.
Donc, s'il y a des entreprises en service aujourd'hui qui nous écoutent et que vous regardez pour une solution de messagerie instantanée, allez jeter un petit coup d'œil à Kimobi. Et je terminerai, Alex, sur des questions un petit peu plus personnelles. J'aime toujours le savoir avec les gens qui viennent sur le podcast. Je suis un grand amateur de lecture. Tu peux peut-être le voir avec les livres derrière moi présentement. Est-ce que tu aimes la lecture d'affaires? Est-ce que toi, ça t'aide à trouver des nouvelles idées pour ta business au jour le jour?
Oui, j'aime lire, puis j'aime comprendre les erreurs que certains entrepreneurs ont fait. Moi, je vois ça comme des shortcuts des fois qu'on peut prendre. J'aime la lecture là. Donc, tu sais, mes peut-être des livres là qui m'ont marqué. J'ai de Compound Effect. Qui est un livre, je pense, qui est vraiment underrated. C'est super, super, super pertinent pour le accountability. Désolé de tous les anglicismes là, mais c'est un livre qui m'a marqué. The One Thing aussi. Ouais. Naturellement, j'aime la vente. Donc, Pitch Anything, c'est un livre là, que je recommande fortement. Ouais.
Intéressant. Je connais bien Compound Effect, un livre que j'ai adoré d'ailleurs. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu, Alex?
Le tien? J'adore le tien. c'est vrai, écoute, j'ai un collègue de bureau qui m'a fait découvrir ton podcast récemment. Puis je suis en retard, mais écoute, j'adore écouter ton podcast. Mais sans faire ce. Sinon, pour m'inspirer ou pour apprendre des choses. J'aime aussi YouTube. C'est vraiment niaiseux, mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons d'apprendre maintenant avec YouTube. Puis, tu sais, bref, des fois, des vidéos qui permettent d'apprendre certaines choses ou des trucs plus spécialisés, là, j'aime bien ce format-là aussi.
Ah, ça, c'est vrai. YouTube, maintenant, là, c'est littéralement tout ce que tu as de besoin si tu veux apprendre quelque chose rapidement. C'est assez exceptionnel. Puis, routine, ça ressemble à quoi la routine d'Alex avant, pendant et après le travail?
Écoute, la routine est assez simple. C'est une routine que j'appellerais de normale. Souvent, on entend des entrepreneurs là, qui se vantent de travailler des 60-80 heures par semaine, name it, là. J'ai vraiment pas cette approche-là. Puis, tu sais, je dis ça, mais mon partner aussi, là, on est vraiment de la même façon. Là. On est in it for the long run. Fait qu'on veut pas s'essouffler. Pour ma part, là, c'est vraiment une routine normale. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Je suis un gars matinal. J'aime passer au travers de quelques trucs le matin avant de partir, aller au bureau. Sinon, je trouve que c'est important de souper. Moi, j'aime souper à la maison, avec la famille. Je trouve que c'est super important. Ça fait une coupure aussi là, de la... Du quotidien, de la job tout le temps. Puis nous, en plus, on travaille dans différentes time zones. Là, fait que ça arrête jamais en réalité.
Ben ouais.
Fait que je trouve que le souper, c'est un bon moment de s'arrêter. Puis sinon, je pense que c'est ça. C'est d'éviter d'associer à être occupé à être productif. Je pense que ça, c'est...
La plus grosse erreur.
Ouais, exactement. Puis sinon, ce que j'aime faire, c'est me fixer peut-être tu sais, 2-3 objectifs par semaine, des objectifs d'affaires ou des objectifs de développement, tu sais, puis aller avec des petites victoires comme ça, 2-3 par semaine, me planifier peut-être un mois d'avance, fait que ça me permet de garder le cap là-dessus. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi avec la business en général. Ouais.
Fantastique. Alex, si on veut en apprendre plus sur Kimobi, votre site web, j'imagine, peut-être même vous avez des postes ouverts présentement.
Oui, exact. Ben écoute, merci pour l'ouverture. En effet, on a plusieurs postes à combler. Je pense que c'est le moment où faut que je le plug. Donc, merci. C'est simple. Pour bâtir une business, ça nous prend des gens. Nous, souvent, on associe des business en techno à des programmeurs. Mais c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, nous, la compagnie, on l'a grandi sur de la vente, sur des cold calls. Donc, écoute, on a des postes très stimulants en vente, en support, en marketing, en programmation aussi, naturellement. Mais, tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour bâtir une business. Puis, vous allez voir sur notre site, kimobi.com/carrière. Vous allez avoir différentes opportunités de carrière là, qui sont offertes, là, ouais.
Fantastique. Ben Alex, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Félicitations pour votre 1759% de croissance sur les 5 dernières années. C'est assez exceptionnel. Tout ça, vous figurez d'ailleurs dans les entreprises en plus forte croissance au Canada. Félicitations également pour l'acquisition que vous avez faite. C'est un truc que des fois, on oublie, mais faire une acquisition d'entreprise, ça se célèbre. C'est excitant et c'est important à mentionner. Donc, félicitations pour ces beaux accomplissements-là. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Je vous remercie de continuer à être autant nombreux à écouter le podcast Hypercroissance. Très récemment, on a atteint des sommets en ce qui concerne les écoutes du balado. Et je voulais personnellement vous remercier, vous qui partagez le contenu avec votre entourage. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.